Merci. Marion Alfaro, je travaille au port de Paris. Moi, j'ai eu un exemple très concret, puisque on aménage et on exploite les berges de la Seine en Île-de-France, notamment. Et on avait une rampe d'accès à l'eau, une rampe en pierre qui était éboulée depuis de nombreuses années. On a voulu la restaurer. Les pierres, en tombant, elles avaient créé... on avait une frayère, en fait, qui s'était créée, des petits poissons qui venaient des lieux de reproduction pour les poissons. Donc on a reconstitué cette rampe, mais ce faisant, on a détruit la frayère, donc on a compensé en installant à côté, en reconstituant une frayère pour poissons lithophiles, en recréant cet habitat de cailloux éboulés, etc., avec effectivement un bureau d'études qui nous a expliqué comment débouler les cailloux, de façon à créer un milieu le plus adapté en fait, au type de poissons qui viennent frayer dans ces lieux-là.
Ça a coûté combien?
Sur l'opération totale, ça a coûté 50 000 euros. Par contre, il y a un type de compensation qu'on ne sait pas faire, ou qu'on sait mal faire, on n'a pas encore trouvé le truc, c'est que quand on construit sur les berges dans le lit naturel de la Seine, on doit trouver des zones d'expansion, compenser la prise sur les zones d'expansion de la crue. C'est-à-dire si on met un objet, etc., qui de ce fait crée un obstacle à l'écoulement de la crue, il faut pouvoir compenser cette surface prise à l'expansion de la crue. Et ça, c'est quand même un petit peu difficile, parce que faut pousser un peu les murs de fond de quai, etc. Ça, c'est très très compliqué, l'application de la loi sur l'eau, et des PPRI, des plans de prévention du risque d'inondation. Et ça, c'est extrêmement difficile, voire impossible, dans des milieux urbains comme Paris, par exemple.
Moi, j'aurais une question, pour que les idées soient bien claires au sortir de vos exposés. Aujourd'hui, en France, est-ce qu'il est totalement obligatoire ou non de compenser? Demain, on fait une nouvelle, on fait quelque chose, un immense parking. Parce que la loi de 77, si j'ai bien compris, était relativement ambiguë. Il y avait la faculté de le faire, mais pas totalement obligatoire. Avec la nouvelle loi Pompili, etc., vous pouvez nous éclairer là-dessus? Enfin, vous nous réaffirmer clairement ce qu'il en est?
Oui, c'est obligatoire. Alors bon, sauf... en fait, en théorie...
Il y a un seuil? Est-ce que pour 2 hectares ou...
Alors, il a été abaissé. Ça dépend sur quel cadre, en fait. Un des problèmes, c'est qu'en fait, chaque cadre légal appelle à des mesures compensatoires qui sont spécifiques, que ce soit pour Natura 2000, la loi sur l'eau ou l'étude d'impact. On n'a pas les mêmes règles. Mais par exemple, l'étude d'impact, en théorie, implique de compenser tous les impacts sur toutes les composantes de la nature, ce qui n'est pas fait parce qu'il y a déjà assez de travail avec Natura 2000 et la loi sur l'eau et ainsi de suite. Mais dans l'absolu, on devrait aussi compenser la nature ordinaire. Il y a un décalage entre le niveau d'exigence et les moyens dédiés au suivi, au contrôle, à la coordination. Il faut voir à quel point les agents dans les DREAL aujourd'hui ou les DDTM sont complètement submergés par les dossiers sur le sujet. Donc on a une loi qui est là, qui a quand même été extrêmement claire et normative, puisqu'elle fixe une absence de perte nette. Donc, je ne sais pas comment ça va s'en débrouiller, et avec des objectifs de résultats. Ça, c'est très bien, moi je plaide pour une augmentation des exigences, mais avoir de telles exigences au regard des moyens dont on dispose pour en contrôler l'application, c'est totalement utopique. Alors il va y avoir des recours, il va y avoir du contentieux, bon, c'est difficile de voir comment tout ça va évoluer. Hein.
Excellent. Vous avez un cas de punition dans le...
Alors, non, c'est aussi un problème. Il y a des mises en demeure, mais arrêter une activité au titre d'une absence de compensation... il y a deux choses. Hein. Soit les choses ont été lancées. Si ça a été lancé, c'est quand même très rare qu'on arrête l'activité. Le préfet ne va pas aller jusqu'à l'arrêt. Par contre, si ça n'a pas commencé... Là, ça peut arriver qu'il y ait des renoncements. Hein. On observe aujourd'hui, par exemple, dans des éoliens, eh bien, en fait, des projets où ils renoncent à mettre 3 ou 4 éoliennes parce que ça va être trop compliqué. On a aussi des exemples sur des renoncements sur des infrastructures de type ZAC, des choses comme ça. Mais pas le projet dans l'ensemble, mais des...
D'accord. Question ici.
Alors, un exemple de Pierre-Marie Lévy, SNCF Réseau.
Je le concerne.
Oui, tout à fait. Donc, un petit exemple, alors c'est pas forcément une punition ou un renoncement, mais nous on a eu l'exemple de terrain qu'on voulait vendre pour un projet d'aménagement notamment au Havre, sur lequel on devait faire des mesures de reconstitution, et en fait il y a eu un recours. nous avons été découpés, donc nous n'avons pas vendu ces terrains à la ville du Havre, c'était pour des entreprises. Enfin, il y avait un gros projet de développement de l'emploi et ça peut être compliqué. Sachant qu'il y avait une particularité, c'est que sur ces terrains, on a des espèces qui se développent dans des milieux très pollués, genre les gares de triage, et que pour reconstituer des milieux très pollués, c'est super compliqué. Donc voilà, ça fait partie des exemples, mais voilà, ils adorent le ballast et toutes les cochonneries qui peuvent se trouver sous les rails, parce que voilà,
ça devrait se trouver des cochonneries avec décharge générale dont on vous a parlé ce matin.
Non, mais voilà, ça fait partie des exemples un peu anecdotiques, mais ça existe aussi. Et moi, j'avais aussi une question sur comment est-ce qu'on sensibilise. Là, on voit bien que ce sont des lois qui s'appliquent beaucoup aux grands aménageurs. On parlait des autoroutes, nous, on est concernés dans le ferroviaire. Mais aussi un certain nombre de riverains ou de particuliers. Nous, on a eu le cas d'aménagement d'anciens délaissés de voies ferrées en voie verte où, pour le coup, il y a un certain nombre d'espèces qui s'étaient développées grâce à la durabilité, etc. Et on a constaté qu'on avait des contraintes assez fortes pour les collectivités environnantes qui voulaient transformer ces délaissés de voies ferrées en voies touristiques. Donc là, pour le coup, c'était plutôt sur elles que sur gestionnaire d'infrastructure. Et que ces contraintes, elles ne s'appliquaient pas du tout aux riverains. C'est-à-dire qu'il y avait là, pour le coup, un lézard très spécifique à protéger parce qu'il faut se rendre sans la nuit, etc. Et les riverains nous disaient, mais vous ne vous expliquez pas que votre projet voie verte est repoussé à cause de ça. Moi, j'en ai plein dans mon jardin et je les prends la peine, quoi. Enfin, ouais. Et donc, la question se posait de comment est-ce qu'on pense le périmètre de protection de ces espèces au-delà des grands aménageurs publics.
Alors, là, c'est la question des seuils que vous avez évoquée. Ils ont été rabaissés, les seuils, en 2011, enfin, fin de décret 2011. Mais on reste quand même pas au niveau de la maison individuelle où, voilà, ça ils échappent quelque peu à ça. Il y a un point quand même qui est important dans ce que vous mentionnez qui me semble, et on est très nombreux à évoquer ça, c'est le manque d'approche écosystémique. C'est-à-dire qu'on va raisonner projet par projet et espèce par espèce. Et ça, c'est affreux parce qu'en fait, on crée des effets inattendus, enfin, c'est indébrouillable. Donc on perd de l'argent, on perd du temps, on perd beaucoup d'efficacité et d'un point de vue écologique, c'est pas efficace. Donc il y a eu une première étape qui a été dit, on va mettre en place une autorisation unique. Ça, c'est une première étape. On dit, bah, en fait, il n'y aura plus qu'un seul dossier pour les différentes dérogations. Ça, c'est une première étape. Mais de la même manière qu'on n'a pas, on décrète ça, on ne met pas en place derrière les moyens pour avoir une approche intégrée. On n'a pas les outils, on n'a pas l'interaction entre les administrations, entre la DDTM, Réal, et selon les acteurs, ils interagissent pas si facilement que ça. Donc, c'est un enjeu fort, mais pas encore.
Donc David Marquet, Link City, groupe Bouygues Construction. Quand je vous entends, quand je vois le magnifique millefeuille réglementaire que vous avez présenté à l'écran, d'abord je voudrais rassurer tout le monde, on est tous volontairement promoteurs de la préservation de la biodiversité. En tant que citoyen, on est intéressé à la chose et on essaie de ne pas prendre les choses à la légère. L'exemple que vous avez pris du scarabée pique prune a beaucoup animé l'entreprise, puisqu'à l'époque c'était sur le chantier de la 28 qu'on s'est retrouvé concerné par ce genre de choses. Par contre, le vrai problème, et vous l'écrivez très bien, et les différents intervenants qui sont passés là l'ont sous-entendu, c'est qu'on n'a pas les moyens de maintien juridique des décisions. On a fabriqué, au travers du Code de l'environnement, un des rares règlements qui ne fait pas fonctionner ce qu'on appelle le parallélisme des codes, c'est-à-dire que les codes fonctionnent comme ça. Le Code de l'environnement impacte en transverse à peu près toutes les réglementations et qu'on n'arrive pas à préserver la cohérence des décisions juridiques du début à la fin. Alors quand je dis décision juridique, je ne parle pas de tribunal, hein. Je parle de validité d'autorisation, on peut prendre l'exemple d'avoir mis en place une mesure de compensation, de l'avoir réalisée ou tout au moins de tenter de la réaliser comme il faut, et en fait de se faire attaquer sur le flanc et donc de se retrouver en recours d'abord gracieux, contentieux, puis au tribunal, dans le secret espoir simplement de tuer par le droit ce que le droit avait lui-même autorisé comme méthode. Alors, je ne sais pas si vous avez des solutions face à des choses comme ça, mais c'est un véritable problème dont il va bien falloir un jour trouver des solutions. Je rebondis sur ce que vous disiez aussi, monsieur, tout à l'heure. Quand on fabrique un milieu qui n'est pas naturel au début, dans lequel la nature s'installe, et que finalement on se retrouve à être obligé de le préserver, à ne plus pouvoir intervenir dessus, comment fait-on? Et là, il y a vraiment un point très très important, un nœud gordien qu'il va bien falloir un jour trancher quelque part.
Là-dessus, je partage complètement ça. Là, je vais reprendre un exemple américain, c'est celui de l'Exxon Valdez. Alors moi, mes étudiants généralement ne connaissent pas bien, parce qu'ils sont plus jeunes, mais je pense que vous connaissez peut-être plus. Donc, qui date de la fin des années 80, et en fait, on a eu 20 ans de procédure pour discuter des réparations écologiques, des indemnités, etc., de tout type. Et à la fin, en fait, à quoi a servi l'argent qui a été dépensé? À financer des bureaux d'avocats, à financer de l'expertise, avec une efficacité absolument catastrophique. Bon. Alors, là-dessus, le droit américain est très pragmatique, hein, le common law est beaucoup plus flexible que notre droit continental, et en fait, ce qu'ils ont adopté, c'est un système de régulation basé sur la gouvernance directe entre pollueurs, pollués et défenseurs de l'environnement, qui est très incitatif parce qu'en fait, l'État met en place tous les mécanismes pour que cette gouvernance soit efficace. C'est un accident, hein, c'est pas de l'autorisation, donc c'est un peu différent. Mais ça marche très bien, parce qu'en fait, si on rentre pas dans ce système-là, en fait, on prend des risques très élevés de sanctions par les cours de justice qui, elles, souhaitent qu'il y ait de la gouvernance directe. Alors, j'évoque ce truc-là parce que c'est un point qui montre qu'on peut faire différemment et pour l'efficacité écologique et économique, parce que c'est ce que je mentionne là, c'est moins coûteux économiquement et c'est plus efficace écologiquement. Dans le cadre français, il y a quelque chose, moi, que j'évoque souvent avec les ONG, c'est leur dire arrêtez de faire du contentieux sur les dossiers, mais travaillez plutôt sur la mise en œuvre des compensations. Plutôt que de considérer que la compensation, c'est un problème, essayez de voir comment ça peut être un levier pour travailler sur l'efficacité écologique. Alors là, il y a un problème, je dirais, qui est un peu structurel, hein, sur ce sujet de la compensation, c'est que il y a de la méfiance par rapport à l'outil et qui est justifié parce qu'il n'a pas été utilisé comme il fallait à mon sens, hein, depuis 76. Enfin, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour le constater. Et donc là-dessus, c'est un besoin de travailler sur des gouvernances territoriales et où là encore, je pense que si l'État mettait des moyens en termes d'animation, et une manière de faire, c'est pas très compliqué, c'est de prendre sur le montant de la compensation, c'est que ça coûte très cher, de prendre 5%. Du montant, 5%, pour financer des agents qui ont pour charge de faire de la cohésion sur le territoire, ça peut être efficace. C'est ce qui se fait quand c'est des très gros projets. Parce que les très gros projets, généralement, l'entreprise a les moyens de payer un médiateur qui va aller faire le tour, etc. Mais dans l'absolu, la neutralité peut être discutée, les ONG vont être méfiantes, donc c'est pas si évident. Alors que si c'était une sorte de code-part là, comme ça qui était mis dans un fonds qui facilite la mise en œuvre et la négociation à l'échelle locale, je pense qu'on gagnerait beaucoup d'efficacité.
Monsieur Clajot, vous voulez répondre sur la question de quand on recrée des espaces qui n'étaient pas naturels?
Moi, j'ai pas d'éléments concrets à rajouter. C'est un constat. Et si on veut avancer, c'est que la question va être posée maintenant. Hein. Il ne faut surtout pas tergiverser ou rester sur la protection pure, ou, etc. Donc, là, c'est de toute évidence, on crée un nouveau problème qu'il faut absolument, si on veut avancer, effectivement, repositionner au niveau réglementation ou récupération. Parce que quand on parle de réglementation, ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est vrai que les ministères, en général, disent « mais il y a déjà tout qui existe, c'est pas la peine de recréer quoi que ce soit, il n'y a qu'à aller chercher ce qu'il faut ». Bon, je ne sais pas si c'est vrai pour ce qui nous concerne là, par exemple, la création de systèmes. Ouais. Alors, par contre, il y a des éléments de réponse qui ne sont pas argumentaires. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est si on n'avait pas simplement cette toiture, c'est l'exemple que je prenais avec mon petit coup, mais qu'on en ait plein, je veux dire qu'on fait une translocation à un moment donné ou autre, peut être permis, on a des dossiers de tolérance qui permettraient de le faire. Quoi. Parce que c'est des cas qui restent exceptionnels pour l'instant, c'est aussi ça. Quoi. On est au début des installations, mais il y a un problème de fond, c'est évident.
Question aussi. Donc, question et témoignage. Donc, Cyril Vandroy, je travaille à l'ADT de la Lozère, donc il a été adjoué. Donc, effectivement, en termes de portage de messages et de mise en œuvre de la politique de compensation, on a effectivement, sur les gros projets, pas trop de difficultés à être entendu, mais on est absolument inaudible sur les petits projets. Et donc, notamment quand on aborde les problématiques d'effets cumulés, qui sont extrêmement difficiles à appréhender. Donc la question, c'est est-ce que sur le plan de la recherche, il y a déjà des outils qui permettent d'apprécier ça? Et un deuxième point, puisque étant passé dans d'autres départements, où en est-on du développement des banques de compensation, puisque la Caisse des dépôts et consignations a un dispositif dont j'ai vu de l'efficacité quand j'étais dans les Bouches-du-Rhône sur un habitat très particulier, donc le Cossoul, hein, donc la plaine de la Pro, avec des zones logistiques voilà, dont on pourrait disserter de la pertinence, mais bon, qui sont compensées aujourd'hui en partie par la mise en protection de cet habitat qu'est le Cossoul. Donc est-ce qu'il y a, au-delà de cette expérience-là, le développement de banques de compensation?
Non, à mon connaissance, il n'y a pas vraiment énormément de choses. Je crois qu'il y a une idée forte. Je crois qu'il y a une idée forte derrière tout ce qu'on a dit l'un et l'autre. C'est effectivement, c'est de ne pas rester sur du secteur, du local, et à chaque fois essayer de prendre en compte non pas une espèce, mais une espèce ou autre. Donc c'est des réflexions qui sont menées beaucoup plus en Scandinavie, notamment sur les services écologiques. Enfin, d'expliquer que c'est un très bel objectif, mais il ne faut pas en avoir qu'un, parce que si c'est que pour produire, on va se retrouver avec exactement les mêmes problèmes qu'il y a il y a 50 ans sur la culture intensive. Donc du coup, l'idée est de, et à chaque fois, d'avoir des approches plus globales. Alors, l'urbanisme aujourd'hui, c'est vrai que les dégâts du zonage sont connus, donc on essaye vraiment d'avoir des approches beaucoup plus fonctionnelles et beaucoup plus complètes et complémentaires. Donc ça, c'est un, je dirais que c'est une approche un peu récente, parce que c'est vrai qu'on va vers de la complexité énorme, mais en même temps, donc, du coup, qui est très longue à se chiffrer, à se définir, à se décortiquer. Mais je trouve que c'est déjà fort de pouvoir se donner comme objectif, pas un point, mais un ensemble un peu plus fonctionnel. Donc du coup, alors ça, c'est un sujet que je ne connais pas trop, hein, donc, du coup, effectivement, je pense que ça se reprend aussi un peu dans le même sens. Quand même.
Bah, sur les impacts cumulés, je sais que Biotope avait travaillé un peu là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont été au-delà de la réflexion parce que ce n'était pas leur priorité des priorités. Bon, voilà, ça, je ne connais pas bien non plus. Mais alors, sur les banques de compensation, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le ministère a mis en place une expérimentation des banques de compensation. Alors, comme souvent dans ces cas-là, l'État n'est pas du tout au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il décrète du jour au lendemain pour mettre en place des banques de compensation, mais en fait, il ne crée aucune institution qui permet de constituer ce marché, c'est-à-dire comme si le marché allait pareil comme des espèces qui va apparaître. En fait, ils ont donc mis en place ils ont proposé à 4 projets d'être des expérimentations de mesures compensatoires. Donc il y en a un porté par Derven qui est en Bretagne, il y en a un qui est porté par donc la CDC, il y en a un qui est porté par EDF. C'est comme madame, je crois. Et puis il y en a un dernier, je ne sais plus. Donc ils ont chacun des approches totalement différentes. Il y en a qui proposent de faire de la convention avec des agriculteurs. Il y en a qui proposent d'acheter du foncier et de faire de la restauration écologique. Donc là, typiquement, il n'y a pas de règles. Moi, je trouve que c'est très embêtant quand même, parce que si on veut commencer à créer de la confiance dans un nouveau système qui va fonctionner sur une logique marchande, quelque part, quand même, hein, on va échanger des crédits. Bon, en France, on a quand même des boutons dès qu'on parle de marché et d'environnement. Pour le coup, on va pas créer des conditions qui sont meilleures là au niveau du débat sur le sujet. Il aurait fallu fixer des exigences très fortes en termes de justement la qualité de ces crédits, pouvoir établir les zones de service, c'est-à-dire la taille des marchés, et puis que ça rapporte de l'argent. C'est-à-dire que fondamentalement là, on va aller vers le moins 10 ans encore une fois. C'est-à-dire si on n'a pas d'exigences plus fortes, là. Donc je ne suis pas très optimiste sur cette expérimentation-là. Par contre, vu que dans la loi, il y a des nouvelles exigences, on peut penser que petit à petit, à force de contentieux, on va arriver vers des actions d'investissement qui vont être de grande qualité, qui encore une fois peuvent exister dans les grands projets, etc. Mais qui l'enjeu, si vous voulez, pour les banques de compensation, c'est justement tous ces petits projets-là qui mitent l'écosystème et où on fait de la compensation. Et finalement, au bout de 2 ans, c'est un terrain vague. Et donc, fondamentalement, c'est là-dessus qu'il y a un vrai enjeu de mutualisation. Donc, voilà.
Je crois qu'il y a... J'allais dire un peu des éléments complémentaires. Je pense qu'on est vraiment dans une phase d'expérimentation et de virage. Quoi. Et tous ces éléments qu'on présente, avec un pas un peu en avant, parce qu'on est en recherche, parce qu'on est critique sur ce qui se passe, je crois qu'on est aussi en train de faire en même temps qu'on peut en faire en marchant. Donc, du coup, on n'a pas des choses qui sont normées, qui sont définies, et qu'il y a des essais. Et à nous de montrer souvent les limites, effectivement, les frontières. Des éléments de seuil comme ça.
Je ne voulais pas faire de publicité par rapport à la feedback de la Caisse des dépôts, puisque ça a été évoqué, j'en dis un mot pour souligner, dans le sens que vous dites, que nous, comme groupe public, avec aussi des filiales privées et une culture de l'intérêt général, on a ces dernières années, depuis 10-15 ans, tenté des choses pour découvrir, merci de l'avoir dit, des moyens de trouver des modèles économiques pour les enjeux qui ont été décrits ce matin. Parce que sans, effectivement, modèles économiques qui font que les acteurs ont envie de le faire et le font et gagnent de l'argent avec, ça va être très difficile de relever ces défis. Et donc, je citerai 2 exemples. Vous aviez tout à l'heure Pierre Dutré, qui a été PDG d'une filiale qu'on a essayé de lancer, qui s'appelait CDC Climat,
et qui a essayé de trouver les modèles économiques avec les quotas carbone, les fameux quotas carbone issus de Kyoto, etc. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop pu être un modèle qui flottait, comme on dit en économie. Et puis, on a cette seconde filiale, c'est d'essayer biodiversité. Et à chaque fois, la Caisse des dépôts met des fonds propres, et parfois pour essayer d'explorer dans sa mission d'innovation et de transition écologique ces nouvelles voies. Et je citerai, pour ceux qui s'intéressent beaucoup, ça existe encore. Moi, à l'époque où j'étais directeur de développement durable, j'avais co-créé avec CDC Biodiv ce que ça s'appelle la mission économie de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 personnes qui font des publications, qui travaillent avec les acteurs qu'on a évoqués. Abonnez-vous à leur newsletter, elle est gratuite. Et encore une fois, ces gens-là essuient les plats, réfléchissent qu'est-ce que sera demain l'économie de la biodiversité. Excusez-moi de cette incise, la question est claire.
Oui, en fait, j'avais Magali Castex de Grand Paris Aménagement. Ma question initiale, c'était en effet sur la loi, mais la dernière loi de biodiversité sur la compensation, mais vous y avez répondu. Du coup, c'était plutôt un témoignage, parce que cette loi, finalement, au sein de Grand Paris Aménagement, j'ai l'impression que ça a secoué, alors que finalement, ça fait que réaffirmer des principes qui sont très anciens, mais peut-être que ce qui a secoué, c'est cette phase de test là, dont vous parliez sur les banques. Et du coup, l'aménageur Grand Paris se dit « Oula, tu regardes ce que ça veut dire ». Du coup, après, moi, la réflexion que ça me pose, c'est de dire bah, « Finalement, on est vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire sur la compensation, mais que l'urbanisme, aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment concevoir sur la notion éviter, donc est le principe de base, mais enfin, quand je vois la réflexion de mes collègues, c'est encore pas du tout intégré, quoi. C'est même au-delà du spectre de...
Oui. Nicolas Orsay, des autoroutes APR. Enfin, moi, je voulais faire effectivement une réflexion sur des sujets que je lis d'assez près. La première, et tu viens de le citer, Magali, c'est le sujet de l'évitement, parce que je ne connaissais pas du tout l'exemple américain, où nous, c'est la loi 76 pour la séquence éditaire et de récompenser, vous avez dit 77, je crois, aux États-Unis. On voit le gouffre qu'il y a, l'écart qu'il y a aujourd'hui entre ce qui peut se faire aux États-Unis et ce que nous, on vit un petit peu au quotidien, notamment sur le sujet de l'évitement qui, pour moi, n'est pas du tout pris en compte. Quand on présente les dossiers, notamment au CNPN, où on n'est que sur le sujet de la compensation. Alors qu'effectivement, quand on fait de l'évitement, je prends un exemple, on avait une zone humide dans un endroit où on a évité cette zone humide, on a décalé le projet, donc on a fait quelque chose effectivement qui a impacté une autre zone, mais qui a, d'un point de vue écologique, est une zone normale, j'allais dire, mais on nous demande effectivement quand même des compensations qui sont excessivement lourdes par rapport à l'aménagement. Et ça, c'est pas du tout pris en compte. Donc voilà, donc essayer de faire passer effectivement ce message. Récemment, enfin, l'ASFA, CDC Biodiversité ont été interviewés par une commission sénatoriale qui s'est montée justement pour la loi biodiversité, dans lequel on a essayé de faire passer ces messages-là, de dire que ça, c'est une première chose. La deuxième réflexion sur les banques de compensation. C'est vrai que ce terme fait peur un petit peu au départ. Moi, j'aurais tendance à dire la première chose, c'est de pouvoir nous permettre de faire des compensations un petit peu plus loin, mais dans un bassin écologique, comme vous l'avez cité tout à l'heure, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la règle. Ce qu'on nous demande, c'est d'abord de faire au plus près. Alors, on l'a fait avec l'ONF, collègue de l'ONF, on l'a fait à Vichy récemment, où on est allé compenser à 80 km des forêts, parce qu'on était dans une plaine agricole, et qu'on était incapable de trouver effectivement des zones de compensation pour les 80 hectares qu'on devait compenser.
Ça a été homologué par le Conseil national ?
Oui, on est passé au CNPN.
Donc ça a été accepté.
Non, mais c'est pas la règle. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la règle. Aujourd'hui, c'est l'exception. Et il faut vraiment avoir une démonstration pure. Alors que dans le bassin écologique, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le bassin écologique, et de faire des choses qui sont à grande échelle et qui marchent. Donc nous, on a des exemples sur la 39, ce qu'on appelle l'autoroute verte, là, entre Dijon et Dijon-Lyon, en gros, la parallèle à l'autoroute A6, où on a fait des compensations écologiques sur des zones, notamment au niveau des temps, avec tout un tas de... On a réfléchi en biodiversité, c'était dans les années entre 95 et 2000, donc ça fait bien presque 20 ans. Donc on a réfléchi sur ces écosystèmes de biodiversité, qui aujourd'hui, donc le bilan, 20 ans après, c'est quoi ? Ben, c'est ça. C'est que quand on fait des zones qui sont importantes et il y a un écosystème qui est recréé, à ce moment-là, on a quelque chose qui est pérenne. Par contre, quand on dissémine les mesures, et c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, enfin, je veux dire, faut pas se cacher, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas de faire des grandes choses, c'est de compenser du lézard des murailles qu'on va trouver partout, c'est de compenser pour des chauves-souris, des choses comme ça, voilà, des crapauds et des choses. Alors que c'est des mesures de manière, voilà, en étant tout à fait factuelle, il est vrai que le suivi dans le temps, même si on nous le demande sur 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc, parce que, notamment pour le lézard, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est on vient recréer ce qu'on appelle des hibernaculums, mais c'est un amas de pierres et de choses comme ça que les gens prennent après pour des décharges. Et donc, qui parfois, effectivement, sont enlevés, voilà. Mais c'est du vécu, hein. C'est des vécus.
Juste un élément de réponse sur... Alors, c'est vrai que les dossiers, alors, moi, je connais certaines Bretagne, on a 80% des dossiers qui sont uniquement de compensation, venant d'un milieu là. Et donc, on a fait une espèce de guide avec les Dréal pour pouvoir exiger quand même qu'il y ait des présentations d'évitement et de récupère, qu'il y en a souvent, mais ils ne sont pas présentés, on va au fait. Donc, du coup, c'est des choses qui évoluent, c'est pareil, ça. C'est un peu long. Quoi. L'idée du plus proche ou du plus lointain pose des problèmes de fond. Bien sûr, présenter comme ça semble assez évident. Si on est en pleine zone, typiquement agricole ou autre chose, on a essayé de se rapprocher de choses qui ont un sens écologique, je comprends. Mais en même temps, on a quand même un souci sur la façon de rédiger des choses comme ça, trop simples, qui permettent de faire un peu n'importe quoi. On risque de se retrouver sur quoi ? Sur ce qu'on a fait dans les années 60-70, c'est des réserves. C'est-à-dire qu'on va faire des groupements où là, on va mettre le paquet, et puis à côté, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, voilà, j'exagère, mais pas trop. On est sans arrêt sur une forme d'équilibre à rechercher, qui fait que, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, hein, on n'a pas d'indicateur si précis pour dire, voilà, tout ce qui est à plus de 10 km, c'est nul, tout ce qui est à moins de temps, c'est... Ça, c'est pas possible. Et ça fait qu'il faudrait systématiquement, alors c'était une proposition que moi j'ai fait au ministère, il faudrait des écologues, par exemple, conseillers de l'État, comme on a des archives aujourd'hui, des paysagistes, et qui interviennent sur des dossiers de ce type-là. C'est-à-dire qu'ils sont aussi capables d'avoir des lectures régionales ou locales qui permettent aussi de nuancer des propos ou des dossiers. Et pour l'instant, on n'a pas ça.
Et nous laisser, en fait, l'autre message qu'on a essayé de passer, c'est de dire laisser plusieurs possibilités ouvertes. Que ça ne soit pas simplement de dire j'ai des banques, qu'on puisse faire effectivement, qu'on puisse compenser dans des banques, qu'on puisse compenser un peu plus loin, qu'on bien sûr qu'on compense.
Pour l'instant, c'est assez ouvert, je crois.
Voilà,
pour l'instant, c'est assez ouvert.
Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend l'endroit dans lequel on se trouve et les personnes avec qui. Parce que comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de guide véritablement qui soit national sur le sujet.
On va prendre deux dernières questions ensemble, comme ça vous pourrez avoir votre propos conclusif, s'il vous plaît. Donc, monsieur.
Xavier Auclair, EDF. Le Conseil départemental des Yvelines vient de créer tout récemment une agence chargée d'accompagner les maîtres d'ouvrage en matière de compensation. Pensez-vous que ce soit un signe encourageant qu'une collectivité territoriale se saisisse de la thématique ? Et deux, pensez-vous que le département soit une bonne échelle pour agir en la matière ?
Deuxième question.
Il ne s'agit pas d'une question, mais d'un témoignage. Donc, je vais donner une balade à Caisse des dépôts. Je voulais juste compléter le propos de Blaise, sans faire absolument le publicité pour la Caisse des dépôts, mais pour dire que finalement, ce témoignage fait écho à ces deux exposés. C'était absolument pas préparé, mais si je travaille avec Blaise très souvent, puisqu'en fait, on a un projet expérimental en ce moment qui touche à la fois à l'écologie urbaine et aux mécanismes de compensation. Je dis deux mots là-dessus. C'est historiquement, on a fait beaucoup de restauration de friches industrielles, de friches urbaines, voire si polluées, en se posant la question de la valorisation économique à travers du logement, du mobilier, etc. Aujourd'hui, on veut y introduire deux autres composantes de la nature en vie, donc ça fait écho au premier exposé, et des mécanismes de compensation, voire des mécanismes de production d'énergie sur site. Alors bien sûr, ça affecte énormément les modèles économiques qui sont sous-jacents. Donc on travaille aujourd'hui à aller chercher justement le plan Juncker qui nous permet, par sa définition, à aller chercher les risques qu'on ne pourrait pas prendre sans lui. Et donc on a un projet expérimental avec la métropole de Lille sur un certain nombre de sites expérimentaux. On est en train de sélectionner deux sites qui pourraient se prêter à ce modèle qui est hybride entre, bien sûr, la capacité à faire du mobilier, l'activité du logement, avoir de la nature en vie et avoir de la production d'EMR, tout en ayant un ensemble qui est cohérent et qui trouve son modèle économique pareil.
un propos en plus, une réponse sur l'échelle départementale, le renouveau des départements grâce à la compensation.
Oui. Effectivement, les banques de compensation, de manière générale, on appelle les sites naturels de compensation en France, qu'ils soient apportés par des établissements publics, des entreprises privées, pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas le problème, c'est pas la question. La question, c'est quand même, à un moment donné, c'est de réussir à faire de ce système qui est là, en théorie, pour améliorer la qualité de la mise en œuvre de cette réglementation, un outil à partir duquel on puisse avoir une autonomie. Bon, peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais au moins ne pas en perdre. La CDC, avec l'expérience du Coussoul, ils ont perdu de l'argent. Moi, j'étais dans le CS de CDC Biodiversité. C'est des millions d'euros qu'ils ont perdu avec tout ça. Donc, et je pense qu'en l'occurrence, l'effort avait été fait. Après, la question, la manière avec laquelle ils ont été vendus, c'est un autre problème. Mais il y a eu un travail de restauration écologique exigeant. Et donc, les Yvelines, ça va être pareil. C'est-à-dire, les Yvelines, ils ont un budget donné pour ça. Il va falloir voir comment est-ce qu'en interne, ils arrivent à démontrer que c'est utile. Alors, soit ils gardent tout ça pour leur projet à eux, en fait ça va être simple, c'est juste les projets d'aménagement liés au département qui vont être compensés à travers leur actif, mais l'objectif c'est pas ça, c'est de créer de la cohérence à l'échelle du territoire et à l'échelle du département. Je pense que le département c'est pas mal, parce qu'il y a les espaces naturels sensibles hein, qui sont donc sous leur responsabilité. Il y a quelque chose qui a du sens au niveau de la gouvernance chez les départements, par les prérogatives qu'ils ont, par le fait qu'il y ait les DDTM, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, encore une fois, je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, du côté de la demande, si on parle d'offre et de demande, la demande, elle dépend complètement de l'exigence réglementaire et de son application. Et donc, tant que l'État, avec un grand E, n'aura pas décidé politiquement qu'on veut faire respecter ça, et que, en plus, ça peut générer de l'activité le développement d'un secteur économique intéressant. Hein. Aujourd'hui, encore une fois, je dis 125 000 emplois dans le secteur de la restauration écologique aux États-Unis. Il a été déjà mentionné tout à l'heure, hein, entre 50 et 70 000 emplois dans le charbon. Bon, c'est des choses fondamentalement qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte. Je vais finir sur l'évitement par rapport à ce qui a été dit tout de suite. Je pense qu'un problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand vous déposez un dossier, l'évitement, on ne le voit pas. En fait, on ne peut pas communiquer là-dessus. Et c'est le gros souci qu'on a, c'est que l'entreprise, elle va pouvoir faire tous les efforts d'évitement qu'elle veut. Ça va lui coûter énormément cher. Mais fondamentalement, le projet il va quand même avoir lieu, donc on va retenir que ça, on va pas retenir l'effort. Là. Et là aussi, le verre à moitié vide et à moitié plein. On a fait des enquêtes de terrain où on constate qu'une part des évitements qui sont mentionnés dans les dossiers sont aussi des évitements qui auraient été faits de toute façon, parce que pour des questions techniques, ils ne pouvaient pas passer là. Donc, il y a aussi c'est une bonne guerre, hein, mais il y a aussi parfois une interprétation de l'évitement qui est adaptée. Quoi. Donc, mais comme on n'a pas de référentiel, là encore une fois, il faut des référentiels clairs pour pouvoir communiquer sur un dossier dans son ensemble avec une vision planifiée et à l'échelle d'un territoire. Et là, on peut commencer à juger. Et on manque d'éléments, hein, clairement d'outils là, à ce stade. Donc voilà, moi c'est ce que j'évoque régulièrement et j'ai positionné à la commission d'enquête là, au Sénat aussi, et on est nombreux là-dedans. Il faut créer des règles, des institutions qui nous permettent de stabiliser toute cette nouvelle loi là, qui a apporté des éléments hein, sur la pérennisation avec l'obligation réelle environnementale, avec la mise en place d'un registre national qui va être adopté. Donc je suis optimiste là.
Merci. Vous voulez conclure dans quelques mots, monsieur?
Moi, j'ai envie de rester provocateur parce que je l'ai écrit déjà. Donc, on souffre complètement d'un nombre de niveaux de décision, une hiérarchie de décision qui est abominable. Donc, moi, j'espérais que les départements sautent parce que c'est. Voilà, je vais faire la moitié de la salle, évidemment, peut-être lyncher, mais voilà, quand on a travaillé sur les projets, notamment de certaines communes du Grand Paris, on a 7 niveaux de décision pour un même projet. Enfin, voilà. Donc, du coup, alors je dis pas que c'est peut-être pile poil celui-là, mais pour avoir travaillé plus sur des planifications et territoires, je trouve que la taille de SCOT, qui vont être obligatoirement partout, autre chose, a beaucoup plus de cohérence par sa fonction, sa notion de pays, tout ça, que des départements administratifs de Napoléon. Alors bon, c'est un peu basique, un peu, vous pouvez critiquer facilement, mais voilà, donc du coup, on a quand même beaucoup trop de hiérarchie. Et, là, je reste dans une provocation, c'est dommage de finir là-dessus, mais bon, la question est posée.
La journée est décoiffante, j'ai encore problème. Voilà. Rien à ce côté de ce qu'on a entendu ce matin.
Voilà, c'est à côté. Oui, mais bon, voilà, pourquoi pas, mais bah, ils ont redémarré complètement, effectivement, avec les DTM, des choses comme ça qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Hein. J'ai fait les formations de DTM sous la première pendant 3 ans, puisque c'était des gens qui arrivaient de l'équipement et qui ne connaissaient rien du tout la plupart du temps. Ah, donc du coup, je connais un peu le sujet, et c'est un moment où je me disais, mais tout le monde avait dit que le département sautait, qu'on allait réduire ce nombre d'éléments, de communes, enfin bon, je passe, c'est la discussion facile, je sais, je veux comptoir, mais en même temps, ça explique aussi qu'on a des soucis dès qu'on a envie de faire bouger des réglementations, des questions qu'on en a soulevées là tout de suite, d'ailleurs on n'a pas de facilité à franchir toutes les étapes pour pouvoir avoir un retour qui ait une efficacité. Donc je reste dans ma présentation.
Merci beaucoup messieurs.